RCF. Bonjour à tous, le magazine régional sur RCF Reims-Ardennes. Vous le savez que c'est un programme un peu localisé autour de Reims et des Ardennes en ce moment, cette période de vacances. Une période qui est marquée par la semaine des vocations, ou plutôt la marche des vocations, un pèlerinage avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Véteux pour le diocèse de Reims. Sachez d'ailleurs que cette démarche a lieu dans les autres diocèses de la province, en particulier dans le diocèse de Châlons avec le père Denis Véju. L'occasion pour nous aujourd'hui de nous arrêter du côté de la Fontaine Olive jusqu'à Signy-l'Abbaye, où nous retrouverons tout à l'heure Mgr Éric de Moulin-Beaufort, puisque dans une poignée de minutes va avoir lieu l'office des vêpres à l'église de Signy-l'Abbaye. Et puis demain, c'est le 1er mai, on aura l'occasion d'y revenir. Une messe au sanctuaire Notre-Dame de Neuvisy. Tout le monde est invité à 10h30, un repas partagé à midi, une marche autour du sanctuaire à 14h, une soirée mariale à Neuvisy, un grand programme, un beau programme pour la journée de mercredi. On reviendra bien sûr tout au cours de la semaine sur ces événements et en particulier vendredi matin, nous serons en direct de Verzy ou de Muison, on ne sait pas trop exactement, avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui est bien sûr sur place. Dans ce magazine, les mémoires chrétiennes, c'est dans un instant avec Jean-François Boulanger. On retrouvera un maire, Arnaud Boquillon, le maire de Puiseux. On retrouvera également Maxime Labesse, puisqu'à partir du week-end de l'Ascension, du 9 au 12 mai, il y aura un pèlerinage canoë. Et puis pour terminer dans ce magazine, on partira voyager dans l'histoire avec Patrick Demuy. Le mardi, c'est bien sûr le rendez-vous habituel avec Jean-François Boulanger et Mémoire chrétienne. Bien sûr, il est fidèle au poste ce soir, au micro d'Alexis Claudretz.
Mémoire chrétienne aujourd'hui avec Jean-François Boulanger. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On attaque aujourd'hui une courte série d'émissions. On va aller sur les pas des Huguenots, numéro 1 aujourd'hui avec vous, Jean-François. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce que le journal La Croix appelait le 2 octobre 2011, un chemin de mémoire sur les pas des Huguenots. Le quotidien catholique parle à ce propos de l'un des plus longs chemins de randonnée européens. Est-ce que l'on peut en savoir un petit peu plus, Jean-François ?
Alors, c'est exact. C'est effectivement un des plus longs chemins d'Europe, puisqu'il fait 1600 kilomètres et qu'il va de Poët-Laval, où se trouve un musée du protestantisme dauphinois, pour aller jusqu'à Bad Karlshafen, dans le Land allemand de Hesse, une localité qui abrite également un musée huguenot, mais cette fois-ci un musée huguenot allemand.
Jean-François Boulanger, de quoi ce sentier est-il la mémoire ?
Alors, des Huguenots, dans une circonstance bien particulière. Alors, rappelons d'abord que le mot Huguenot sert à désigner les protestants français. Et, à la fin de la guerre de religion, après l'instauration de l'édit de Nantes, les protestants constituaient donc en France une minorité bénéficiant d'une tolérance relative. Relative parce que la liberté de culte ne leur était concédée que dans un nombre de villes limité. Pour prendre un exemple, dans notre région, la ville de Vitry-le-François abritait une forte et active minorité protestante, un tiers de la population, deux pasteurs, mais elle n'avait pas le droit d'avoir un lieu de culte dans la ville. Et du coup, les protestants de Vitry-le-François devaient se rendre au culte dans un temple installé aux limites du territoire communal à Frignicourt. Et donc pour eux, tout bascule en 1685 lorsque Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Et plutôt que de se convertir au catholicisme, un certain nombre de protestants décident de quitter le royaume de France pour pouvoir continuer à pratiquer librement leur religion. On les estime entre 200 000 et 300 000. Et ceci peut concerner notre région, effectivement, notamment Vitry-le-François qui perd la moitié de sa population. Soit d'ailleurs, remarque au passage que la proportion des protestants dans la population de la ville, en raison justement du rôle économique primordial que jouaient les protestants dans la vie de Vitry-le-François. Mais c'est encore plus vrai dans des régions plus massivement protestantes que ne l'étaient les diocèses de Châlons et de Reims, notamment dans le Dauphiné. Beaucoup partent donc vers l'Allemagne, vers la région de Berlin, le Brandebourg, c'est assez bien connu, mais aussi, c'est moins connu, vers la Hesse-Cassel, dont le souverain, le landgrave Charles Ier de Hesse-Cassel, était calviniste et dont les États avaient perdu une partie importante de leur population pendant la guerre de 30 ans. Donc le but un peu, c'est d'accueillir des coreligionnaires, mais aussi de repeupler cette région. Donc Charles Ier de Hesse-Cassel accueille les Huguenots à bras ouverts. Il publie des édits d'accueil destinés aux protestants français persécutés, s'adressant notamment à ceux qui sont désireux de créer une entreprise manufacturière et artisanale. Et c'est ainsi que 4000 Huguenots s'installent donc en Hesse-Cassel. Et en Allemagne, c'est la deuxième communauté huguenote en nombre après celle du Brandebourg. Parmi les entreprises qui ont été fondées par les Huguenots, citons des soieries, des manufactures de gants, de toiles, des verreries. Et en 1699, qui est créée la ville de Karlshofen, qui va accueillir effectivement ces Huguenots. Elle s'appelle à l'époque Zeebourg. L'architecte d'ailleurs s'appelle Jean-Paul Dury, c'est lui-même un réfugié. Elle deviendra Karlshofen en 1717 en l'honneur de son fondateur Charles de Hesse-Cassel. Et c'est un apothicaire huguenot qui s'appelle Jacques Galland qui va découvrir des sources d'eau salée qui vont entraîner dans un premier temps le développement du commerce du sel, puis en 1838, la création du premier établissement thermal qui aboutira au fait qu'aujourd'hui, depuis 1977, cette ville s'appelle Bad, Bad comme bain, Karlshofen.
Voilà pour l'histoire huguenote du lieu où se termine ce chemin de mémoire sur les pas des Huguenots, pour reprendre l'expression de Lacroix, comme on l'a fait au début de cette chronique avec vous, Jean-François Boulanger. Mais comment la mémoire s'en est-elle perpétuée?
Alors, les Huguenots, donc les protestants français exilés en Allemagne et leurs descendants, ont gardé pendant assez longtemps cette particularité d'avoir un culte qui était en français. Et en 1785, soit un siècle après la révocation de l'édit de Nantes et leur fuite de France, un réfugié du nom de Formet expliquait que la première génération avait gardé longtemps l'espoir de revenir en France. Je le cite. On les a vus mourir dans l'âge le plus avancé, ne sachant que leur langue ou même leur patois, le patois occitan dans ce cas-là. Quelques-uns d'entre eux, quand on leur faisait des reproches à ce sujet, répondaient « Que peut-on apprendre en 50 ans ?» Donc on imagine qu'effectivement, ces huguenots français avaient des problèmes d'assimilation, comme on dirait aujourd'hui. Et les procès-verbaux du consistoire huguenot tenu à Berlin jusqu'en 1852 le sont en français. On a encore en 1896 des mariages en Allemagne qui sont enregistrés en français et donc la conservation de la langue française a joué un rôle de premier plan comme élément constitutif de l'identité d'une communauté qui est désireuse de rester fidèle à ses origines. Cela d'ailleurs a été favorisé par le rôle international que jouait la langue française au XVIIIe siècle. C'est un peu comme, admettons, aujourd'hui les Anglais dans le Périgord. Ils se disent que parler en langue française, ça ne sert à rien, les autres parlent anglais. Et donc la communauté huguenote est restée très vivante pendant au moins un siècle et demi. Par contre, à la fin du XIXe siècle, elle est menacée de disparaître.
Comment réagit-elle justement face à ce danger d'extinction culturelle, Jean-François?
Eh bien, en fondant en 1890 une société savante qui s'appelle la Société huguenote allemande, en français dans le texte. Elle est fondée par un pasteur de l'église réformée française de Magdebourg qui s'appelle Henri Tollin et par le juge Richard Béringuier qui est mort en 1916, qui était aussi un historien de sa communauté. Le but est de maintenir les liens entre les communautés protestantes françaises qui sont encore nombreuses en Allemagne à l'époque et leur passé français. Elle s'était dotée d'un journal appelé Deutschen Huguenote et puis nommé en 1998 Huguenoten. Ses objectifs étaient maintenir et promouvoir la tradition huguenote en Allemagne, promouvoir la recherche, la théologie et la généalogie des huguenots, approfondir l'amitié franco-allemande, entretenir des liens de coopération avec les paroisses et instituts huguenotes en Allemagne et à l'étranger, contribuer au secours envers les pauvres et les réfugiés, promouvoir la compréhension entre les nations et les religions du monde dans un esprit de respect mutuel et de tolérance. Vous voyez, elle était très en avance pour son époque. Et c'est cette société huguenote qui ouvre en 1980 le musée huguenot-allemand dont nous avons parlé au début, avec le soutien de la ville de Karlshafen, dans une ancienne manufacture de tabac. Ce musée aujourd'hui expose des objets et documents relatifs à l'immigration française dans la région. Et donc pour conclure, je dirais que c'est dans ce terreau mémoriel allemand, bien particulier donc de la Hesse-Cassel, que l'idée du chemin européen sur les pas des Huguenots va naître. Donc tout commence en Hesse en 1997, mais ça c'est une autre histoire que nous verrons lors de notre prochaine émission.
Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Jean-François Boulanger et à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Dans une poignée de minutes, nous allons retrouver Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui est présent en ce moment à la Fontaine aux Livres, enfin, qui a voyagé de la Fontaine aux Livres à Signy-l'Abbaye. Il est d'ailleurs à Signy-l'Abbaye en ce moment puisqu'à 18h30, c'est-à-dire dans une dizaine de minutes, il y aura l'office des Vêpres à l'église de Signy-l'Abbaye. Mais auparavant, on va déjà regarder le programme de demain. Car demain, c'est Neuvisy, la fête bien sûr mariale à Neuvisy. Et pour nous en parler, Jacques Houdard va nous parler de Neuvisy. Hier, il nous parlait bien sûr de l'itinéraire du Carmel de la Fontaine aux Livres à Signy. Là, on est à Neuvisy. Jacques Houdard, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors, il faut dire que le 1er mai, il y a traditionnellement le pèlerinage à Neuvisy, mais il y a cette année, en même temps, la marche pour les vocations avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Véteux. Ces deux manifestations se croisent, si on veut.
Alors, elles se croisent ou c'est voulu qu'elles soient ensemble, dans le sens où le pèlerinage à Neuvisy, cette année, bon, le thème choisi avec les autres sanctuaires du diocèse, avec les quatre sanctuaires du diocèse, est être pauvre avec le Christ, riche des autres. Et à Neuvisy, bien sûr, on spécifie un petit peu par rapport à Marie, et donc notre thème à Neuvisy, c'est pauvre avec le Christ, mais riche des autres comme Marie, par rapport à l'humilité de Marie, par rapport à la foi de Marie, par rapport à... Voilà. Et cette journée de pèlerinage diocésain pour l'évocation à Neuvisy a toute sa place par rapport à la mise en route. En plus, le 1er mai, c'est le jour d'ouverture du pèlerinage à Neuvisy. Donc, le programme de cette journée de pèlerinage...
Quel est le programme? Je vous interromps, mais quel est le programme, Jacques Houdard? Voilà. Parce que si on veut aller, parce qu'il peut faire beau le 1er mai à Neuvisy, on annonce une météo qui s'améliore. Donc, ça veut dire que on peut aller au pèlerinage traditionnel, il y a une messe à 10h30, mais est-ce que c'est cette messe, c'est le coup d'envoi de la marche des vocations?
Voilà, c'est cumulé, c'est ensemble. C'est-à-dire que nos deux évêques seront présents pour la messe à 10h30, pour l'envoi du mois marial à Neuvisy, mais ce sera aussi l'envoi de cette journée de pèlerinage de marche pour les vocations. Donc, à 10h30, la messe, avec nos deux évêques. Ensuite, il y aura un repas partagé à Neuvisy. Et ensuite, la marche pour Neuvisy, pour aller au bois, voilà, au monument où les enfants ont trouvé la petite statuette. Et en même temps, ce sera le pèlerinage pour les vocations. Alors, ce pèlerinage a été prévu pour que les familles puissent participer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chemin au travers des bois, il n'y aura pas même une poussette pour faire ce pèlerinage.
Et là, cette marche, elle est juste après le pique-nique, donc messe 10h30, pique-nique aux alentours de midi, midi et demi, 1h, voilà. Enfin 13h. À partir de 2h, bon, les gens vont aller vers le bois quand même.
On va... Alors la marche, voilà, c'est à 14h, le pèlerinage c'est à 14h. C'est tout un circuit en passant par le monument qu'il y a dans les bois à Neuvisy et qui est autour du sanctuaire et qui mesure à peu près 6 km. En sachant que tous les pèlerins seront invités, bien sûr, à marcher avec nos évêques, mais il y aura la possibilité à trois endroits différents de raccourcir un petit peu le circuit pour les gens qui souhaiteraient pas faire 6 km. Quoi.
Alors donc, pour les auditrices, les auditeurs de RCF, il y a plusieurs rendez-vous possibles. 10h30 la messe, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Véteux, participer au pique-nique, faire, j'allais dire, la totale. Hein. Et puis peut-être ceux qui ne peuvent pas le matin, venir l'après-midi et se rendre au bois, de toute façon, se greffer au pèlerinage en route.
Voilà, il y a tout le temps la possibilité de rejoindre les pèlerins ou de raccourcir le temps de pèlerinage, en sachant qu'en soirée, à 18h, il y aura un temps de prière mariale au sanctuaire à l'église de Neuvisy.
Merci Jacques Houdard d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
Merci à vous, au revoir.
Merci Jacques Houdard d'avoir été avec nous, on vous retrouve bien sûr dans nos prochaines éditions.
Le 18-19 sur RCF.
Un maire nous parle, un maire vous parle. Il est avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de découvrir votre commune, la commune de Puiseux. Alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous la présenter? Le nombre d'habitants, comment sont ces habitants, des retraités, des jeunes, des agriculteurs? Bref, vous avez la parole, monsieur le maire.
Présenter succinctement la commune, le recensement va avoir lieu le mois prochain, mais on est recensé à environ 115 personnes. Un petit village rural situé à une demi-heure de Charleville et on va dire 40 minutes de Reims, à proximité de l'échangeur de l'autoroute Voigny, ce qui nous donne un attrait, économique, parce que les accès routiers sont très bien desservis. Un renouvellement de la population a eu lieu sur les 15 dernières années, on va dire, de par la démographie naturelle. Et aujourd'hui, à l'âge de 47 ans, comme je dis tout le temps, je suis dans les plus vieux du conseil municipal, ce qui fait qu'il y a quand même un bon renouvellement.
Alors, ça, bon monsieur le maire, je vous interromps, parce que dans beaucoup de maires que nous rencontrons dans les villages ardennais, il n'est pas rare d'avoir des gens très plus âgés, mais surtout en retraite, et qui se considèrent encore, et ils ont raison d'ailleurs, d'être encore jeunes, mais ils ont 75, 80, à 47 ans, vous êtes on est un peu familier sur RCF. Vous êtes presque un nourrisson, monsieur Bouquillon.
On pourrait dire des fois qu'on est considéré comme ça. Après, comme je vous ai dit, de par la force des choses, toutes les personnes qui ont pu passer au conseil municipal, ils ont déjà donné, j'ai envie de dire. Et ce rajeunissement s'est imposé au cours des dernières élections, parce que il y en a qui rendaient leur tablier de par, on va dire, pas l'usure morale, mais on va dire peut-être un peu physique. Et ils avaient déjà donné beaucoup, donc on s'est trouvé un peu confronté à faire ce renouvellement et à s'engager. Tout simplement, on a bataillé, on n'avait pas trop le choix que de renouveler le conseil municipal et de faire en sorte que ça continue, quoi. Donc, si on veut que ça avance, il faut y aller.
Alors,
c'est pas forcément
monsieur le maire, simplement, avant de venir à vous sur votre commune, cette population, est-ce qu'elle a aussi été renouvelée au niveau des habitants? Il y a certains maires qui nous disent, mais c'est pas toujours le cas, avec le Covid, vous avez des gens qui ont aimé un peu plus la campagne, qui ont dit, on va quitter Charleville, on va quitter Sedan, on va trouver peut-être une maison à des prix plus abordables et on va venir à la campagne. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses où c'est vraiment pas partout pareil, quoi.
Non, mais on le ressent dans l'environnement local, de par l'engouement à l'achat. Il est clair que dès qu'il y a un bien à vendre, il ne reste pas très longtemps sur le marché. Il y a même des biens qui se vendent pratiquement sans annonce, de par le bouche à oreille et des choses comme ça. Enfin, c'est très rapide. En fait, nous, on a, au niveau de la commune, on a des logements locatifs appartenant à la commune. Ça reste pas vide, quoi. Ça ne traîne pas et on sent qu'il y a un attrait. Alors, je ne dis pas que moi, c'est dû au Covid. Je pense que c'est dû, je vous ai dit, à la proximité des axes routiers, qui fait qu'il y a une forte demande sur l'axe Reims-Charleville. Et dès qu'il y a, entre guillemets, une place qui se libère, elle est comblée. Moi, je le dirais plutôt comme ça. Voilà.
Alors, monsieur le maire, vous-même, comment êtes-vous venu maire de Puiseux? Est-ce que vous étiez déjà au conseil municipal avant, adjoint? Vous avez fait votre parcours et puis on est venu vous chercher? Ou c'est le sens des autres? Rendre service? Qu'est-ce qui vous a conduit à être maire à Puiseux aujourd'hui?
Je vous avoue que c'était pas du tout à l'initiative de mes idées d'être au conseil municipal. C'est sur pas le mandat là, mais le mandat avant où je me suis, comme je vous ai dit, on a été un peu sollicité par nos prédécesseurs. Ils nous ont dit, ben maintenant, c'est à vous d'y aller, quoi. Alors, on réfléchit un petit peu, puis pas trop longtemps, parce qu'il faut bien qu'il y ait un conseil municipal qui tourne. Pour résumer, en fait, la crainte qui pourrait se faire, c'est que si on s'engage pas pendant un temps, on parlait de fusion avec des communes voisines, c'est pas forcément une aberration, mais pour garder la maîtrise de nos investissements locaux, il est important que le conseil municipal existe, donc c'est pour ça qu'on s'engage. Moi, sur le mandat d'avant, j'ai démarré adjoint, Et de par les petits mouvements de conseil municipal, je me suis retrouvé maire intérim. Et là, j'ai été renouvelé maire sur le mandat dernier, quoi.
Alors, il faut dire, monsieur le maire, que souvent, aujourd'hui, il y a des maires qui ne veulent pas rempiler, parce que il y a beaucoup de responsabilités, plus qu'on ne le pense. Et dans cette émission, on le voit, c'est quand même beaucoup de travail. Combiner aussi une activité professionnelle et être maire, c'est pas toujours évident. C'est un peu votre cas, monsieur Bouquillon, Arnaud Bouquillon.
Oui, bah en fait, c'est un peu ça qui fait peur, parce qu'il faut arriver à concilier la vie de famille, concilier la vie professionnelle. Et j'ai envie de dire presque cette activité de responsable local, moi j'ai tendance à le dire que c'est la case loisir qui saute pour faire ça. Ça choque c'est des fois certaines personnes quand il faut faire des dossiers de subvention, qu'on est confronté à des gens dont c'est le boulot et qui nous disent vous n'avez pas fait ça en temps et en heure, mais je leur dis écoutez, moi c'est mon loisir, quoi. Donc il est vrai qu'il y a des fois on défaille un peu sur,
alors...
sur la responsabilité, oui.
Alors, monsieur Arnaud Bouquillon, maire de Puiseux, on a envie de vous demander également à propos des communautés de communes. Celles-ci ont pris, bien sûr, du pouvoir, mais le maire, d'une certaine façon, il reste le patron, entre guillemets, dans sa commune. Le maire, on le reconnaît. Dans le monde d'aujourd'hui, on dit que les politiques sont très loin. Mais le maire, vous vous êtes interpellé dans Puiseux. Vous pouvez pas faire un pas dans le village sans qu'on vous arrête.
Moi, je me considère pas comme le maire. Je me considère un peu comme, je vais dire gentiment, le coach. C'est l'intermédiaire de des fois toutes les misères, mais des fois des choses très positives aussi. Et il faut un contact de toute façon. Donc voilà, après, c'est pesant en certains moments, certes, mais quand c'est interne à la commune, c'est pas forcément le plus pesant.
Pour terminer, monsieur Bouquillon, parce que le temps passe vite, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve aussi pour d'autres émissions. Quand il se passe quelque chose, une kermesse, une fête, quelque chose à Puiseux, n'hésitez pas à nous joindre et à me joindre. Et bien sûr, on parlera de vous. Est-ce qu'il y a un projet en cours qui avance, ou est-ce que vous avez un projet pour les mois ou les années qui viennent?
Dans les années qui viennent, on a pour projet de renouveler la toiture d'une grange communale qui sert de salle d'association, de rassemblement communaux et quoi que ce soit. Donc ça, on est amené à faire un investissement là-dedans. La petite chose qu'on vient de faire, un petit peu originale, je vais dire, c'est qu'on a planté un arbre qui est revenu sur la commune à l'occasion d'Octobre Rose. On l'a planté le jour de la Sainte-Catherine. Et c'était pour en souvenir des pertes de la commune dues au cancer cette année, étant donné qu'on en a eu 4 personnes rattachées au cancer qui sont décédées. Donc on a planté un arbre avec une belle cérémonie. Ça peut donner l'idée à d'autres maires de le faire aussi, quoi.
Absolument, ouais. Monsieur le maire. Et d'ailleurs, on est vraiment en empathie avec tous ceux qui sont touchés, bien sûr, par cette maladie. Et Dieu sait s'ils sont nombreux parmi nos auditrices, nos auditeurs sur RCF. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Malgré tout ça, malgré les difficultés que le maire doit porter dans sa commune, je pose la question à tous les maires. Donc, vous n'allez pas y échapper, Arnaud Bouquillon. Malgré tout ça. Est-ce que vous êtes un maire heureux de faire ce que vous faites dans votre mission de maire à Puiseux?
Oui, je me sens pas pesé par ça. Il y a des fois, si, on aura envie de dire on arrête. Mes gamins disent des fois, quand est-ce que tu arrêtes? Mais mon épouse leur disait, s'il fait pas ça, il fera autre chose.
Donc... En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire Arnaud Bouquillon, maire de Puiseux, dans ce très beau département qu'est le département des Ardennes. Et on est bien sûr de tout cœur avec vous, avec votre commune. Et n'hésitez pas simplement sur RCF à nous joindre. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Vous le savez, on en parle depuis hier. Depuis hier jusqu'au 4 mai, il y a une marche des vocations, un pèlerinage à travers le diocèse, comme dans les 7 diocèses de la province ecclésiastique de Reims. Pour le diocèse de Reims, c'est Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Étienne Véteux qui marchent, qui sont en tête en quelque sorte de la marche. Et dans le diocèse de Chalon, c'est le père Denis Véju. L'occasion pour nous, on entre tout de suite en ligne avec lui pour rencontrer Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui aujourd'hui a sillonné les routes ardennaises entre le Carmel de la Fontaine-Olive et Signy-l'Abbaye. Bonjour Mgr.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors vous êtes en train de pèleriner, comme on dit, sur ces routes ardennaises et diocésaines. Comment se passe ce pèlerinage pour vous, Monseigneur?
Écoutez, honnêtement, c'est un très bon moment, c'est très agréable en fait de marcher. Nous avons la chance qu'il fait plutôt bon, et même là cet après-midi, à l'instant où je vous parle, presque chaud, donc c'est facile. Nous découvrons ou nous voyons un peu mieux la région, cette belle région de la Thiérache. Et puis, on est détaché de bien des choses qui permettent de prier, de réfléchir et de rencontrer des gens, en particulier ceux qui marchent avec nous.
Et à chaque fois, chaque jour, bien sûr, c'est un petit groupe différent, forcément.
Voilà, un petit groupe à géométrie variable, mais de gens bien, bien motivés, très sympathiques, très, très variés. Et c'est aujourd'hui, là, depuis la Fontaine aux Olives, nous sommes, je ne sais pas compter, mais 35, je pense.
C'est pas mal, hein. On vous a vu hier en image dans un reportage télé. C'est dire aussi que il y a une ambiance tout à fait particulière, à la fois dans le décor et puis une démarche spirituelle, bien sûr, pour les vocations, pour les séminaristes et pour tous les autres.
Voilà. Donc à chaque étape, nous essayons de dire quand même un chapelet et puis de méditer. Nous avons un thème de méditation qui nous est proposé chaque jour. Et autour de figures du diocèse, donc hier c'était Jubieri et Framartus, qui ont été deux prêtres missionnaires dans les années 1900, à partir des années 1910, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale comprise. Et puis aujourd'hui c'est autour de Marie-Thérèse Noblet, qui est une jeune femme de Signes d'abbaye, qui a été une malade d'abord, miraculée à Lourdes, et puis qui ensuite a été une religieuse missionnaire. Et donc nous laissons porter par ces saints ou ces grandes figures du diocèse.
Si on passe encore une ou deux étapes, Monseigneur, si on va avoir encore deux ou trois étapes, bien sûr, mais ce qui est important aussi, c'est que dans les autres diocèses, il y a cette démarche, et que tout le monde va se retrouver quand même le samedi 4 mai à la cathédrale et à la basilique Saint-Remi.
Voilà, exactement. Ce qui est original de notre démarche, c'est que c'est tous les évêques de la province qui marchent chacun dans son diocèse, et nous convergerons samedi matin pour aller ensemble à la cathédrale et vivre une journée jusqu'à la messe finale qui aura lieu dans la basilique Saint-Remi, oui.
Et puis à chaque fois vous êtes hébergé ou bien vous allez dans des monastères ou bien vous êtes chez, comme on dit entre guillemets, chez l'habitant, ce qui vous permet de rencontrer sans doute des personnes aussi. Ça aussi, ça doit être aussi intéressant pour vous.
Tout à fait. Ben, pour moi, c'est vraiment une occasion de rencontrer le diocèse un rythme plus lent que d'habitude, puisque à pied, non pas en voiture, et donc forcément on voit des choses qu'on ne voit pas en voiture. J'espère que le diocèse m'entre un peu dans les pieds. C'est important pour les vocations, parce que il s'agit pour nous de vocations pour le diocèse.
Alors il est vrai aussi qu'il y a des rendez-vous dont on reparlera, c'est-à-dire Neuvisy, bien entendu. Je reviens au rassemblement de tous les diocèses. Dans tous les diocèses en ce moment de la province, on marche aussi, faut bien le rappeler.
C'est ça, exactement. Tout le monde marche, chacun à sa manière, mais tout le monde marche et se prépare à ce rassemblement de samedi.
Rassemblement de samedi avec une célébration tout à fait particulière quand même, tout de même.
Alors un temps de prière, chaque diocèse aura un point de départ dans Reims, puis convergera vers la cathédrale. À 11h à la cathédrale, un temps de découverte et de prière. Et puis après le déjeuner, toute une série à Saint-Sixte, dans les locaux de l'Institut catholique qui nous accueille généreusement, toute une série d'activités proposées, avant un concert et puis une messe à la basilique.
Bien, Monseigneur, on vous souhaite bien sûr bonne route, parce que je pense que vous n'aimez pas, d'ailleurs, et c'est normal, vous n'allez pas pendant le pèlerinage utiliser comme cela votre portable, mais on aura l'occasion de vous retrouver vendredi matin, si vous êtes disponible, hein, aux alentours de 7h, vous serez peut-être chez l'habitant à cette heure-là.
Eh bien écoutez, on verra bien, mais je vous répondrai à 7h vendredi.
C'était Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui était avec nous. Il faut noter qu'on le retrouvera bien entendu demain du côté de Neuvisy, mais sur notre antenne, vendredi matin, il sera en direct avec nous. Ce sera la dernière journée du pèlerinage dans le diocèse, sachant que samedi, il y aura bien sûr une journée importante où tous les diocésains de tous les 7 diocèses vont converger vers Reims.
Le 18-19 sur RCF.
Évidemment, on aime la montagne, on aime la campagne, on aime bien sûr toutes ces balades. Et la météo est en train de légèrement s'améliorer. Mais que dirions-nous du canoë? Eh bien, c'est ce que les étudiants et les jeunes vont pouvoir profiter dans le week-end de l'Ascension. Et pour nous en parler, au micro d'Alexis Claudrette, Maxime Labesse.
Avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, on a le plaisir de recevoir Maxime Labesse, prêtre dans le diocèse de Reims et les Ardennes. Maxime, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, avec toujours des beaux événements à nous présenter. On avait parlé récemment, c'était pendant la période hivernale, du camp ski et prière. On avait également présenté un peu les VTT qu'on avait pris l'habitude d'annoncer sur les ondes de RCF. Et puis, en 2024, une nouvelle initiative. C'est dans quelques semaines, quelques jours même, Maxime Labesse. C'est maintenant qu'on s'inscrit, en tout cas. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une nouvelle proposition, la proposition du camp Pelécanoé. Donc, qui est une nouvelle proposition dans notre diocèse qui sera le week-end de l'Ascension entre le jeudi et le dimanche, donc du 9 au 12 mai. Et nous partirons en canoë sur la Meuse pour découvrir nos belles Ardennes et partir de Sedan vers le sanctuaire de Saint-Antoine des Hauts-Butés.
Une proposition originale qui permet de nouveau à la fois de rassembler des jeunes du diocèse et en même temps de découvrir son territoire d'une manière différente.
Tout à fait, c'est une proposition qui est dans la suite du camp ski prière et du Pelé à VTT, qui permet aux jeunes de vivre une expérience forte à la fois de vacances et en même temps de recherche spirituelle, de formation et encore une fois, comme le Pelé à VTT, de découvrir la richesse de notre beau paysage.
Alors lorsque l'on parle, Maxime Labesse, de Pelé, qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Concrètement, c'est l'abréviation d'un pèlerinage. Donc en fait, nous nous rendons en pèlerinage vers le sanctuaire Saint-Antoine des Hauts-Butés, qui est un des quatre sanctuaires de notre diocèse.
Pelé canoë du 9 au 12 mai sur la Meuse. Maxime Labesse, notre mission à RCF, évidemment, c'est de relayer ces initiatives diocésaines. Mais si on en parle, c'est aussi pour dire qu'il reste des places. C'est maintenant que l'on s'inscrit.
Tout à fait. Il reste quelques places, une dizaine. Donc, avis aux amateurs. C'est une proposition pour les lycéens et déjà les troisièmes. Donc, on accueille des jeunes entre 14 et 17 ans pour cette nouvelle aventure.
Et ça fera combien de jeunes au total qui pourraient être réunis potentiellement ?
On a maximum 20 places. On a donné pour cette première initiative, cette première édition, on a limité à 20 places pour ne pas se laisser déborder pour un nouveau projet. Donc là, actuellement, on a une dizaine d'inscrits, donc il nous resterait une dizaine de places.
Parce qu'on imagine qu'effectivement, pour cadrer les choses aussi, lorsque l'on part en canoë, c'est différent que lorsqu'on est à VTT ou que lorsque l'on est en ski. C'est encore une autre façon de faire et d'organiser la sécurité aussi, protéger nos jeunes qui sont dans cette aventure.
Tout à fait. Donc on a d'abord recruté un moniteur qui a les diplômes nécessaires pour encadrer l'activité du canoë et qui sera avec nous pendant les 4 jours. Et c'est lui qui dirigera l'activité canoë. Et puis, on est en itinérance, on campera de lieu en lieu, comme on le fait avec le pèlerinage à VTT. Et voilà, on est accueillis dans différents lieux de notre diocèse, de différentes paroisses, pour célébrer, être accueillis, découvrir ces lieux.
Justement, j'allais y venir, Maxime Labesse, j'allais dire, est-ce que ça va être des campements en mode camping, peut-être pas sauvage, mais en tout cas, camping où on plante la tente, ou est-ce qu'on va être dans des lieux en dur, passer des soirées aussi de partage, etc. Comment ça se passe là aussi à ce niveau-là ?
On campe sous la tente chaque soir. On a un lieu de repli en cas d'intempéries, mais on campe sous la tente.
Dans les Ardennes, il fait toujours beau, Maxime Labesse.
Mais
vous
toujours,
le savez.
Toujours.
on ne prend pas de risque avec la météo dans les Ardennes.
Aucun. Donc, on campe sous tente. Et puis, on a effectivement le soir un temps de veillée. Et puis, le matin, un temps d'enseignement avant de partir en canoë.
Évidemment, on présente donc ce Pelé canoë du 9 au 12 mai, c'est sur la Meuse, de Sedan au sanctuaire Saint-Antoine des Hauts-Butés. Maxime Labesse, on l'a dit, pour les 14-17 ans, en gros de la 3e à la terminale, hein, c'est ce qui correspond à cette tranche d'âge. Il y a un coût quand même à prévoir, et puis les modalités d'inscription, on a envie d'avoir un petit peu toutes les informations pratico-pratiques.
Alors, en effet, c'est pas gratuit parce que l'activité demande un petit peu un budget, donc on demande une participation de 190 euros par participant.
Qu'est-ce qu'elle couvre, cette participation de 190 euros ?
Elle couvre tout, entre le canoë, le matériel qui est loué, et puis l'intendance, les lieux d'hébergement.
Les repas,
tout est compris. Voilà, et donc on sera ravis d'accueillir ceux qui voudront rejoindre l'aventure. Donc on peut nous écrire à l'adresse mail pele.canoe@catholique-reims.fr et puis au téléphone au 07 48 90 88 88.
07 48 90 88 88 ou pelé.canoë@catholique-reims.fr. On rappelle les adresses dans quelques instants. Pour vous, Maxime Labesse, c'est une première, ce Pelé canoë pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Quel est votre premier sentiment ? Est-ce qu'il y a un sentiment un petit peu d'excitation, d'appréhension ? Est-ce que c'est un petit peu un mélange de tout ça aussi ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête là au moment où on échange ?
Un petit mélange de tout ça, parce que à la fois toujours très très heureux de pouvoir lancer de nouveaux projets et puis de pouvoir aider nos jeunes à pouvoir grandir dans la foi. C'est quand même notre premier projet et c'est ce pourquoi on veut faire cette proposition. Et en même temps, quelques appréhensions parce que c'est une organisation nouvelle, avec une activité nouvelle, un fonctionnement nouveau qu'il faut découvrir. Et on le fait en équipe, heureusement. Donc voilà, c'est en même temps une belle aventure et on sera heureux de pouvoir rejoindre les paroissiens qui nous accueilleront particulièrement à Sedan, à la messe du lieu eucharistique le jeudi de l'Ascension. Et puis le dimanche 12 mai aussi, on sera au lieu eucharistique à Revin pour la messe paroissiale. Et ce sera des moments aussi où on pourra rencontrer les gens qui nous accueilleront.
Parmi l'équipe pour accompagner ces jeunes, vous nous avez parlé d'une personne qualifiée justement pour ce pélécanoë, pour un petit peu cet outil, voilà, le maîtriser, ce petit bateau, comment ça se passe, et puis pouvoir intervenir en cas de problème. Concernant l'équipe diocésaine, vous ferez partie de l'aventure, Maxime Labelle, bien évidemment. Quelles sont les autres personnes, des visages peut-être que les parents connaissent aussi, qui vous accompagnent certainement à travers le Pelé VTT, à travers le camp ski et prière, et d'autres même peut-être des laïcs aussi qui viennent vous accompagner, qui seront ceux à vos côtés?
Donc on est deux à organiser, avec Julien Henry qui est...
Du côté de Charleville-Mézières. Plutôt.
Qui est, oui, du côté de Mouzon. Il habite à Mouzon. Il est professeur d'histoire à Sedan. On organise tous les deux ensemble. Donc, on a recruté Gauthier, qui sera avec nous, qui pourra encadrer l'activité canoë, qui est diplômé du BPGEPS, activité nautique. Et puis, il y aura le frère Jean-Bernard, un de nos séminaristes, qui est en formation à l'abbaye de la Grâce, qui sera avec nous. Et puis aussi Benoît Bertrand, qui est aussi animateur pour nos camps depuis quelques années. Et qui sera avec nous. Et on est encore dans l'attente de recruter une personne, au moins une fille, pour rejoindre l'aventure.
Eh bien voilà, le message est passé, que l'on soit intéressé peut-être pour s'engager dans cette aventure, pour accompagner ces jeunes du diocèse, et notamment si vous êtes une fille, une jeune femme, eh bien pourquoi pas, c'est l'occasion de rejoindre l'équipe avec Maxime Labelle, Julien Henry, Gauthier et
Benoît Bertrand,
tout à fait. Voilà pour les informations. On rappelle que l'on peut s'inscrire aussi, nos auditeurs, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont envie de tenter l'aventure, le 9-12 mai, pélécanoë sur la Meuse avec le diocèse de Reims et les Ardennes, pour les 14-17 ans, en numéro de téléphone le 07 48 90 88 88 ou une adresse mail pelé.canoë@catholique-reims.fr. Dans les adresses mail, évidemment, on ne met pas les accents pelé.canoë@catholique-reims.fr. Merci Maxime Labesse.
Merci Alexis, merci à tous.
Et puis on vous souhaite un très bon week-end en avance en espérant que ça fasse le plein dès cette première édition.
Avec joie.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour terminer ce magazine, je vous propose de voyager dans l'histoire. On a voyagé dans les Ardennes avec le pèlerinage, on voyage en canoë avec Maxime Labesse, et bien on voyage du côté du Moyen-Âge et au cours de l'histoire avec évidemment Patrick Demuy qui est avec nous. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Dans votre émission hebdomadaire, toutes les semaines, on a le plaisir de vous retrouver. Et en ce moment, vous nous entraînez bien sûr, comme d'habitude, au cœur de l'histoire. Et vous nous entraînez du côté d'Épernay aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement, Patrick Demuy?
Je voudrais continuer avec vous notre tour d'horizon des chanoines réguliers qui étaient présents dans notre diocèse. Et notre diocèse, parce qu'Épernay, jusqu'à la Révolution, jusqu'à la nouvelle délimitation des diocèses, était dans le diocèse de Reims, c'est maintenant celui de Chalon, dès que l'on a franchi la vallée de la Marne. Dans la dernière émission, nous avons parlé des chanoines réguliers de Saint-Denis, Rémois, et nous avons évoqué cette grande abbaye dont il reste maintenant les bâtiments devenus le musée des Beaux-Arts, en cours de restauration. L'église a disparu. Alors, ces chanoines réguliers, je rappelais l'autre fois, n'est-ce pas, vivaient en communauté, avec vœux de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, tout en étant actifs sur le plan pastoral. Et c'est pour ça qu'on les trouve en ville. Alors, nous avions à Épernay également une communauté de chanoines suivant la même règle, la règle de Saint-Augustin, sous le vocable de Saint-Martin. Alors, Saint-Martin et Épernay, alors, à l'origine, c'était une collégiale comtale, c'est-à-dire que le comte de Champagne avait, c'était pas un exemple unique, fondé dans ses domaines plusieurs collèges de clercs, qu'on appelle des chanoines, ils suivaient évidemment aussi une règle de vie commune, mais sans faire vœu de pauvreté, ces clercs étaient attachés au service du Seigneur. Bon, la plus grosse était à Troyes, à Saint-Étienne, il y en avait une très grande aussi à Provins, à Saint-Thyrias. Celle de Saint-Épernay était plus modeste. Alors, à quoi servaient ces clercs? Vous savez, par définition, les clercs étaient des lettrés et ils pouvaient prêter leurs plumes au comte pour établir des actes, pour assurer la transmission de ses ordres, etc. Et puis également, ils priaient, évidemment, c'était la fonction principale. Ils priaient pour les membres de la famille. Et c'était un peu comme les aumôniers, si vous voulez, d'une famille puissante. Alors, ces clercs vivaient de façon sans doute correcte, mais un peu confortable, jusqu'au moment où le comte de Champagne, Thibaud II, a été interpellé par saint Bernard de Clairvaux, qui se porte engagé dans la réforme de l'Église, et qui l'a incité à faire de cette collégiale plus exemplaire, en demandant aux chanoines de suivre la règle de Saint-Augustin, donc de faire de pauvreté.
Ça veut dire, en quelque sorte, comme quoi, dans toutes les époques, on essaye de réduire le train de vie. Hein. C'est une sorte de Bruno Le Maire de l'institution monastique qui veut remettre les pendules à l'heure.
Voilà, comme je le disais la dernière fois, dans ce moment de réforme de l'Église, on est sensible au retour à ce qu'on appelle la vie apostolique. Et dans ces périodes pascales, nous lisons souvent les actes des apôtres, nous savons bien ce que veut dire la vie apostolique, c'est-à-dire le fait de mettre tous ses biens en commun, et en donnant à chacun ce dont il a besoin pour sa vie quotidienne, mais voilà, et en se dépouillant, en vivant dans la simplicité, et c'était un exemple aussi à donner, bien évidemment, aux laïcs, que ce dépouillement par rapport au bien de ce monde. Donc les chanoines d'Épernay ont été aiguillonnés, si l'on peut dire, par le comte et par saint Bernard pour prendre une vie plus austère. Alors ça s'est fait sans violence, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que les chanoines qui étaient là ont été autorisés à rester selon leur ancien mode de vie. La réforme s'est faite, si vous voulez, progressivement, par extinction progressive des chanoines à l'ancienne, et ceux qui suivaient la règle, ils ont progressivement remplacé. Donc il y a eu ainsi à Épernay également une communauté de chanoines réguliers, qui étaient sous l'autorité de l'archevêque de Reims, puisque au moment de la réforme, l'abbé de Saint-Denis de Reims, l'archevêque aussi, se sont fortement impliqués dans ce processus. Alors, Saint-Denis comme Saint-Martin étaient des établissements tout à fait indépendants, placés sous l'autorité de l'évêque, et n'ont jamais essaimé, et d'ailleurs n'ont pas eu de congrégation. Nous parlons de chanoines réguliers, il n'y en a plus du tout maintenant dans notre diocèse de Reims, mais il y en a quand même encore en France. Il y a un exemple dont je peux faire état, que certains de nos auditeurs doivent connaître, c'est l'abbaye de la Grâce, qui se trouve dans le sud de la France.
Absolument, dans le sud, oui. On a eu d'ailleurs, et je crois qu'ils y sont encore, quelques séminaristes de Reims qui sont là-bas.
Il y a deux séminaristes de notre diocèse qui sont à la Grâce, et nous avons eu l'occasion de les voir à tel ou tel moment à Reims. Ils sont venus pour les ordinations, etc. Et ces chanoines réguliers de la Grâce correspondent bien au modèle dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'ils vivent en communauté avec une vie de prière intense, bien sûr, mais ils sont actifs dans la pastorale, dans les villages des environs, ils ouvrent leurs abbayes pour des retraites, s'occupent de jeunes, etc. Donc voilà, c'est un type de vocation qui n'a pas totalement disparu en France, mais qu'on ne retrouve plus dans notre diocèse. De même qu'on ne retrouve plus dans notre diocèse les prémontrés. Alors c'est les prémontrés que je voudrais vous parler un petit peu, parce que c'était très important. Ils ont été fort nombreux également chez nous, essentiellement dans les Ardennes, entre le XIIe siècle et la Révolution française, qui leur a été fatale. Aujourd'hui, les prémontrés, on n'en connaît plus beaucoup en France. Il y a Friolet, Rhône, il y a Bondeuil en Normandie. Bon, les amateurs de bière connaissent peut-être l'Eff. c'est une abbaye de prémontrés chez nos amis belges. Alors, prémontrés, ça dit sans doute quelque chose aussi à nos auditeurs de la région, puisque c'est la forêt de Saint-Gobain. C'est un lieu qui n'est pas très loin de Reims. C'est là que finalement s'est trouvé fondée l'abbaye mère qui, elle, a essaimé, a constitué progressivement une congrégation, à la différence de Saint-Denis, de Reims, toute Saint-Martin-des-Pernets, qui était toute seule, Prémontré a eu vraiment des émules. Alors, à l'origine de Prémontré, il y a un fondateur né vers 1080, Norbert, de très noble extraction, fils du comte de Genappe, qui a appartenu à la chapelle de l'empereur romain germanique. Et en 115, il a quitté cette position privilégiée. Bon, il faut dire qu'il était choqué par la lutte entre l'empereur Henri V et le pape, et par fidélité et au successeur de Pierre, il a voulu quitter la cour impériale, a renoncé à ses biens et est devenu dans un premier temps un prédicateur apostolique, donc parcourant les campagnes pour révéler le zèle religieux des fidèles. Mais vous savez, on s'est toujours méfié dans l'Église de ces électrons libres, de ces personnages qui allaient d'ici, ici ou là, mais apparemment n'étaient pas rattachés véritablement à une autorité ecclésiastique, et il fallait dans une certaine mesure qu'ils soient intégrés dans une structure, du moins que sa mission soit officiellement reconnue. Et c'est dans cette optique qu'il est venu à Reims, au mois d'octobre 1119, parce que le pape Calixte II tenait ici un concile, et il a voulu marquer donc sur son obédience envers le souverain pontife et se faire confirmer sa mission. Et lors de ce concile, qui a rassemblé plusieurs centaines de prélats à Reims, c'était extrêmement important, pour pouvoir en parler un autre jour si vous voulez, il a fait la connaissance, entre autres, de l'évêque de Laon, Barthélemy de Jure, qui s'est pris d'amitié pour lui, qui a voulu encourager sa mission, et c'est lui qui lui a donné, dans le sud du diocèse de Laon, dans le massif de Saint-Gobain, un terrain où il a pu s'installer avec les premiers disciples qu'il avait rassemblés autour de lui. Donc c'est là l'origine de Prémontré, que certains reconnaissent sans doute encore, parce que le site est occupé maintenant par l'établissement sanitaire, il n'y a plus de moines, mais enfin les bâtiments de l'abbaye dans l'état de la fin de l'Ancien Régime sont encore debout. Et donc après Montré, Norbert a réuni une communauté sous la règle de saint Augustin, et à Noël 1121, très, très précisément, ils ont fait leur profession canoniale, donc la promesse de respecter la règle de saint Augustin, la promesse de stabilité, et assez rapidement, Prémontré a essaimé à Floreffe, près de Namur, et puis en 122 à Cuissy, et en 124, les religieux de Prémontré ont été chargés de réformer Saint-Martin de Lambre. Ça s'est démarré très vite. En 126, Norbert a été élu archevêque de Magdebourg, mais il a eu à sa suite un nouvel abbé, Hugues de Fosse, qui véritablement a organisé la communauté, la congrégation, de structurer cet ordre nouveau, au fond, on peut l'appeler ainsi, en lui donnant une constitution, en organisant un chapitre général, comme le faisaient les cisterciens, pour chaque année faire le point et assurer le lien entre différentes communautés. Le premier chapitre s'est réuni en 128, il y avait 6 communautés, mais à la fin de l'abbatiat de Hugues de Fosse, qui fut successeur de Norbert, en 164, ils étaient 120. Donc vous voyez que ça a été un développement tout à fait rapide, et un développement qui particulièrement a touché notre diocèse, puisque les Prémontrés ont été dans les Ardennes.
Merci Patrick Demuy d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. Voilà, ce magazine s'achève. Merci de nous avoir accompagnés. Il faut savoir que demain matin, eh bien, c'est férié, donc on ne nous retrouvera pas forcément, mais nous serons sans doute sur place, du côté de Neuvisy, dans le département des Ardennes, où se déroule à 10h30 la messe au sanctuaire Notre-Dame de Neuvisy. Tout le monde est invité, autour de Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Étienne Véteux, qui eux sont en marche depuis lundi, une marche qui va se poursuivre jusqu'à samedi pour les vocations. À noter que vendredi, d'ailleurs en direct, on retrouvera l'archevêque de Reims qui sera en direct avec nous. En attendant, on vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF. Au revoir.